Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série « L'importance de la rédemption ». Nous arrivons à l'étude numéro 13 et aujourd'hui, nous verrons un peu de plus près les divers noms que la parole de Dieu donne, révèle de Dieu le Père. Toute l'histoire du salut est celle du Dieu qui manifeste sa gloire en se révélant à travers la création et la rédemption. Or, la nature intime d'une personne ou d'un objet s'exprime dans le nom qu'il désigne, selon cette phrase de Franz Delitzsch, un éminent bibliste. Le nom d'une chose est l'empreinte de sa nature, et c'est l'expression de l'impression qu'elle produit en tant qu'auto-révélation de la divinité. L'histoire doit donc être la manifestation des noms essentiels de Dieu. Et comme il se manifeste à la fois à travers la création et la rédemption, nous devrions nous attendre à la révélation de deux noms essentiels, l'un relatif à sa souveraineté et à son pouvoir en tant que créateur, et l'autre en relation directe avec son alliance et son amour rédempteur. C'est précisément le cas. Dieu se dépeint lui-même de deux façons essentielles, tout d'abord comme Elohim, le Créateur et le Gouverneur universel, comme Yahvé, qui est le Rédempteur et le Dieu de l'Alliance. Je répète, Dieu se dépeint lui-même de deux façons essentielles, comme Elohim, Créateur et Gouverneur universel, et comme Yahvé, Rédempteur et Dieu de l'Alliance. Que ces deux noms soient effectivement les deux noms principaux de Dieu, cela ressort clairement de la fréquence de leur emploi dans les Saintes Écritures. Tandis que Adonai, le Seigneur, Adonai est employé 450 fois. Sebaoth et El, Dieu puissant, chacun 238 fois. Eloi et El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, chacun quelques 50 fois. Et El Elyon, le Dieu Très-Haut, 32 fois seulement. Et on trouve 2570 fois Elohim et près de 6000 fois Yahvé l'Éternel. Tous ensemble, les noms de Dieu, ces noms apparaissent donc environ 10 000 fois dans l'Ancien Testament, ce qui montre très clairement leur profonde et glorieuse signification dans le cadre de la révélation biblique. Elohim est le Dieu Tout-Puissant. Et là, il y aurait une ou deux choses à expliquer. Le nom est renforcé par la terminaison finale Im Cherubim Séraphim, le pluriel de la plénitude divine. Mais le verbe qui l'accompagne est toujours au singulier, en sorte qu'ils sont pleinement exprimés, ils s'expriment donc l'unité divine aussi bien que sa pluralité. On peut dire, donc, tous ces noms, vous l'avez compris, sont de grande importance et le Dieu Tout-Puissant doit être considéré avec respect et avec crainte, contrairement à ce que malheureusement certains font aujourd'hui en blasphémant ce saint nom. Yahvé, eh bien la prononciation correcte du tétragramme hébreu, on ne peut pas le prononcer, c'était voulu, c'était IHWH, et apparemment, Yahvé, c'est donc comme ça que on a essayé de le prononcer. La prononciation Jéhovah fut introduite pour la première fois par des érudits chrétiens il y a 4 siècles. La première trace de cette prononciation étant trouvée chez les moines franciscains, je dis bien ce sont des moines et non pas des témoins de Jéhovah, ces moines franciscains, Peter Calatinus, un Israélite baptisé, et dans son livre « Les mystères de la vérité catholique » de Arcanis Catholica Veritatis en 1518, a été publié un an après que Luther a épinglé ses thèses à Wittenberg. Les manuscrits hébreux originaux ne contenaient que les consonnes, on l'a bien compris, IHWH, donc uniquement les consonnes, et les voyelles ont donc été permises un peu plus tard. Ils placèrent les voyelles d'Adonai sous le tétragramme qu'on lisait Adonai. Ainsi, on a oublié de plus en plus la prononciation correcte au bénéfice du Jéhovah de Galatinus. Oui, chers amis, tout cela doit être considéré avec respect et avec crainte. C'est l'Éternel, c'est celui qui existe et qui demeure. Donc aussi inébranlable sera le fidèle que nous représentons, nous les fidèles, ceux qui ont toujours été fidèles à Yahvé l'Éternel, comme le Seigneur se présente lui-même à nous. C'est celui qui est, et c'est celui qui était, et également celui qui vient. Offenbarung, donc Apocalypse chapitre 1, verset 4, verset 8, et le chapitre 4, verset 8. Premièrement, le nom de Yahvé. Eh bien, voyez-vous, en des formes variées, la gloire merveilleuse du nom Yahvé illumine l'histoire du salut carrément. Le fondement est Yahvé Jireh, le Seigneur qui pourvoit, il est celui qui pense au sacrifice, qui achève l'expiation. Genèse chapitre 22, verset 14. Et le but est Yahvé Shammah. Le Seigneur est là. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Exode chapitre 48, verset 35. Tandis que le chemin vers le but est Yahvé seul, car il est Yahvé Roi, le Seigneur mon berger, selon le psaume chapitre 23, verset 1. Ensuite, nous avons Yahvé Rofeka, le Seigneur qui me guérit, Exode 15, verset 26. Yahvé Sidkenu, le Seigneur notre justice, Jérémie 23, verset 6. Yahvé Shalom, le Seigneur qui est la paix et le salut, Juges chapitre 6, verset 24. Et dans la bataille contre les puissances qui voudraient nous ravir ses bénédictions, il est Yahvé Nissi, le Seigneur, ma bannière. Exode chapitre 17, verset 15. Oui, Yahvé Tsebaoth, ou plutôt Yahvé Tsebaoth, le Seigneur des armées. Et là, il y aurait quelque chose à expliquer également. C'est aussi la raison pour laquelle, dans la période qui suivit la captivité à Babylone, le nom éternel des armées est devenu le nom principal. Jérémie l'emploie 80 fois. Agée, 14 fois. Zacharie, 50 fois. Et Malachie, 24 fois. Pour le reste, affaibli et insignifiant, né dans une profonde tristesse et revenu de la captivité, la connaissance et la reconnaissance de Dieu en tant que Yahvé Tsebaoth était un réconfort capable d'insuffler l'assurance de ce que le Seigneur, commandant invisible des puissances du ciel, porterait sa cause à la victoire et son peuple au but. C'est pourquoi aussi nous voyons apparaître la traduction grecque de ce nom dans le livre de l'Apocalypse 9 fois dans les textes. Chapitre 1, verset 8, chapitre 4, verset 8, chapitre 11, verset 17, chapitre 15, verset 3, chapitre 16, verset 7, chapitre toujours 16, verset 14, chapitre 19, verset 6, et le verset 15, et encore le chapitre 21, toujours d'Apocalypse évidemment, mais verset 22. L'Apocalypse étant le livre qui décrit la plus grande détresse du peuple de Dieu dans un conflit qui l'oppose au pouvoir de ce monde, mais qui décrit en même temps le coup décisif qui a été porté à l'armée de l'Antichrist et la brillante victoire du peuple des rachetés à la fin. Donc, comme tel, on a compris, il est le chef des armées des étoiles et des galaxies. Ésaïe 40, verset 26, et on peut encore ajouter Juges 5, verset 20, et Job chapitre 38, verset 7. Le chef suprême du monde des anges, n'oublions pas, il est le chef suprême du monde des anges. Selon 1 Roi, chapitre 22, verset 19, 2 Rois, chapitre 6, verset 17, Josué, chapitre 5, verset 13 à 15, Néhémie, chapitre 9, verset 6, et le psaume 103, verset 21, et le chapitre 148, verset 2. Et le commandant, il est également le commandant de ses guerriers ici-bas, selon 1 Samuel, chapitre 17, verset 45, et le livre des Nombres, chapitre 10, verset 36. En qualité de Yahvé, Tsebaoth, il commande à toutes ses armées afin de conduire son peuple au triomphe et son royaume à sa perfection. C'est pourquoi Yahvé, Tsebaoth, est son nom le plus puissant. C'est l'expression la plus éloquente de son pouvoir sur le monde. En même temps que son nom royal le plus élevé, porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire puisse faire son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? C'est Yahvé Tsebaoth, l'Éternel des armées. Voilà donc le roi de gloire. Psaume, chapitre 24, versets 9 et 10. Donc, Elohim est le Dieu élevé. C'est le supratemporel, élevé bien au-dessus des limites du créé. Yahvé est le Dieu intratemporel qui y entre et y témoigne de lui-même. Elohim est le Créateur, donc il est l'origine et le but. Yahvé est le Rédempteur, c'est le Dieu de l'histoire. Elohim est principalement le Dieu du commencement et de la fin. Yahvé est avant tout le Dieu du milieu qui se glorifie à la fin. Le royaume de puissance deviendra le royaume de gloire. Entre les deux s'étend le royaume de grâce, dont le contenu essentiel et la rédemption. Yahvé est le Dieu qui, dans le cours de cette histoire, est le médiateur entre le commencement et la fin, et qui unit pour toujours la grandeur du Dieu Elohim à la gloire de Yahvé. L'histoire devient ainsi le retour de la création d'Elohim, l'homme en particulier, sous la conduite de Yahvé. Ô Dieu Yahvé Elohim, on l'a bien compris, les deux noms représentent notre Dieu le Père. Ce double nom devient ainsi le motto de toute l'histoire de l'univers, de la même manière que Jésus-Christ est le motto de l'âge néo-testamentaire. Ensuite, nous avons le caractère graduel du plan du salut. La Bible dit « Dieu a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. » Hébreux chapitre 1, verset 1. Dieu est l'Éternel. Il est le Créateur du monde. il est la cause supratemporelle de toute existence temporelle. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant, bien avant que les montagnes fussent nées et que tu as créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es, tu as été et tu seras toujours Dieu. Psaume chapitre 90, versets 1 et 2. Ce Dieu d'éternité a appelé les âges à l'existence, selon Hébreux chapitre 1, verset 2. De lui sont issus le mystère de sa volonté, Éphésiens chapitre 1, verset 9, selon la version Darby. Les décrets de création et de rédemption. Lui, en effet, lui qui accomplit toutes choses selon le conseil de sa volonté. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Il s'est proposé en lui-même ce dessein. Éphésiens 1, verset 9. En sorte qu'il est le Créateur et le Roi non seulement de l'univers, mais encore des périodes de l'histoire du monde, c'est-à-dire de tous les âges. 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. C'est donc littéralement le roi des âges. Il est le commencement, l'alpha, car de lui seul et par lui sont toutes choses. Romains, chapitre 11, verset 36. Et si la fin de toutes choses retourne à lui, afin que Dieu soit tout en tous, selon 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28, c'est parce que la fin réside dans le commencement. L'alpha contient l'oméga, car pour lui sont toutes choses, n'oublions jamais cela. À lui donc la gloire dans tous les âges. Amen. Romains chapitre 11, verset 36. Ce but final de Dieu, c'est amener toutes choses ensemble sous une même tête. Éphésiens chapitre 1, verset 10. Il ne l'a pas révélé en une fois, dans la plénitude de sa signification. Bien au contraire, originellement, sa sagesse a été une chose cachée. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Et le mystère de son décret a été gardé secret au temps des âges. Romains, chapitre 16, verset 25. Ajoutez Éphésiens, chapitre 3, verset 5, et le verset 9, ainsi que Saint Jean, chapitre 16, verset 12 et 13. C'est donc graduellement, à travers l'histoire du salut, que Dieu a fait connaître ce plan. Heureux sont nos yeux et nos oreilles qui voient et qui entendent ce que n'ont pu percevoir malgré toutes leurs ardentes investigations les saints hommes des temps anciens. Saint Matthieu, chapitre 13, versets 16 et 17, et premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 10 et 11. Le progrès ne fut pourtant pas régulièrement progressif comme le serait une ligne ascendante continue. Il faudrait plutôt parler de sections de temps auxquelles certaines limites ont été assignées et qui se suivent à l'image des marches d'un escalier. À l'intérieur de chaque période, Dieu assignait aux hommes un certain chemin à parcourir, après quoi il intervenait à nouveau, mais dans un nouveau cadre d'événements. Il se révéla d'abord à l'humanité comme à un tout et traita avec elle en tant qu'unité. Cela dura environ 2300 années. Il laissa alors subitement les hommes livrés à eux-mêmes et choisit un individu, Abraham, et il inaugurait pour lui une toute nouvelle ligne d'histoire. 430 années plus tard, il y ajoute une loi à laquelle Israël devra se conformer pendant 1500 années. 1500. Et après cela, la nation d'Israël, elle est mise de côté et un peuple est formé d'entre toutes les nations. Mais finalement, Israël, premier peuple élu, sera à nouveau repris et rétabli après de longs siècles de dispersion. Au second peuple de Dieu sera donnée la gloire céleste, tandis que l'ensemble de l'humanité sera béni d'une manière visible. De l'ancien monde, finalement, jugé par le feu, un monde nouveau sortira pour conduire enfin la création jusque vers la consommation. Tout le cours du salut se présente ainsi comme une chaîne de périodes richement colorées, escalier montant, véritable organisation historique et qui est fait de parties articulées. Ce caractère graduel de l'histoire du salut la gouverne à tel point qu'il doit être regardé comme son principal aspect externe et comme le principe de toute la structure de la révélation. L'attitude du développement du salut doit donc conduire à reconnaître les caractères particuliers de chacun de ces périodes, plutôt de chacune de ces périodes, pour autant qu'elles soient révélées dans le Saint-Livre, la Bible. L'Écriture sainte n'est pas un bloc uniforme, mais c'est un merveilleux organisme articulé, à la fois historique et prophétique, qui doit donc être lu organiquement avec le discernement des âges et dans le cadre de chacun d'eux. Le nom que l'on donne à ces degrés importe peu, qu'on les appelle période du salut, âge ou éon qui est le terme le plus rapproché des termes originaux, ou encore les dispensations. Notez Éphésiens, chapitre 1, verset 10, chapitre 3, verset 2, Colossiens, chapitre 1, verset 25, et 1 Timothée, chapitre 1, verset 4. La Bible ne donne des définitions précises ni pour l'une ni pour l'autre de ces définitions. il y a quelque chose là qui est important à expliquer. On peut cependant remarquer que la Bible mentionne d'une manière précise un certain nombre d'âges. Premièrement, les âges qui nous ont précédés, notés Ecclésiaste chapitre 1 verset 10, et parmi lesquels plusieurs s'accordent à reconnaître l'âge de la création primitive, l'âge prédiluvien ou de la restauration. Deuxièmement, le présent âge mauvais, Galates chapitre 1 verset 4. Troisièmement, les âges à venir, Éphésiens chapitre 2 verset 7, soit l'âge à venir ou âge millénial, l'âge des âges ou encore la nouvelle création. Dans son livre Israël et les nations, à la page 195, Nancy 1960, Raymond Cashel propose une définition intéressante de ce que est un âge. Un âge, dans la Bible, comme une ère en géologie, est une période de durée variable qui s'étend entre deux grandes transformations physiques de la Terre et des conditions de la vie humaine qu'il modifie. Le sens du mot « dispensation » est beaucoup moins rigoureux. Un seul âge peut en fait être le cadre de plusieurs dispensations divines. Bien que l'essentiel ne soit pas le mot employé, mais la vérité qu'il recouvre, il nous paraît pour le moins tout à fait normal de tenir compte de cette distinction. De là, les divergences possibles entre commentateurs sur la division et sur la classification des divers âges ou dispensations. Il importe certainement bien plus de reconnaître la chose elle-même que de discuter de l'impression qui la désigne. Le point essentiel est de percevoir ces étapes et de reconnaître leurs différences et leurs relations intimes. Une époque dans l'histoire du salut, c'est une période historique ou une tranche d'histoire marquée par des principes divins bien spécifiques et bien définis. Elle s'accompagne d'un contexte spécial et de devoirs spéciaux en relation avec l'ensemble du Conseil divin du salut. Chacune manifeste, au regard de l'homme, une nouvelle grandeur et une nouvelle magnificence du Fils, car tous les âges se rapportent au Fils Jésus-Christ. Hébreux, chapitre 1, verset 2. Cela explique donc que des principes valables dans une période puissent donc se rapporter en même temps à d'autres. Il n'en reste pas moins que leur agencement relatif en un complexe de principes n'apparaît qu'une seule fois dans une époque et pendant un temps déterminé auquel il appartient. Chaque époque se distingue donc des autres et forme à elle seule une entité inclusive. Donc, une nouvelle tranche d'histoire commence toujours lorsque du côté de Dieu, un changement est introduit dans la composition des principes valables, c'est-à-dire quand du côté de Dieu, trois choses concourent. Premièrement, la continuation de certaines ordonnances jusqu'à la supplicable, plutôt applicable. Je répète, premièrement, la continuation de certaines ordonnances jusque-là applicables. Deuxièmement, nous avons l'annulation d'autres règles jusque-là imposées. Troisièmement, nous avons l'introduction du principe nouveau. Donc, avec l'introduction, par exemple, de la période présente du salut, les principes généraux de la morale exprimés par la loi demeurent inchangés. Notez Romains, chapitre 8, verset 4, chapitre 13, versets 8 et 10. Bien que dans un esprit complètement nouveau tout cela, et des principes nouveaux sont donc introduits, tels que l'admission totale des gentils, ça veut dire les non-juifs, sur un plan d'égalité avec les juifs et la position céleste des rachetés. Certaines ordonnances, par contre, ont été abolies, telles que les ordonnances mosaïques à l'égard du culte, la circoncision ou sacrifice extérieur, le sacerdoce particulier avec autel et vêtements spéciaux. Ces règles étaient des ordonnances divines. Et oui, et en même temps, il s'agissait de principes dispensationnels dont la validité regardait seulement une période déterminée. Et cela jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse a été faite. Notez Galates, chapitre 3, verset 19. Elles ont été accomplies en Christ. Et elles ont été remplacées par des lois spirituelles beaucoup plus élevées. Hébreux chapitre 13, verset 10 et 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 et 8. C'est donc ici que nous pouvons réaliser la portée pratique considérable de cette si indispensable distinction des dispensations dans le plan divin du salut. L'oublier, c'est de risquer de tomber dans l'auto-sanctification légaliste et dans la confusion. Beaucoup de principes de base du catholicisme sont le résultat inévitable de la non-observance de ces distinctions. Si en effet, en dépit du Nouveau Testament, on considère les principes dispensationnels de la loi mosaïque donnés à Israël comme toujours applicables et pour tous les peuples, il est donc logique de regarder comme biblique l'existence d'une prêtrise spéciale. L'usage tel que l'encens, tel que les vêtements sacerdotaux et autres choses analogues. En effet, la distinction des dispensations diverses du plan de Dieu est à la fois extraordinairement pratique et d'une profonde importance pour l'histoire des hommes et pour le culte de l'Église. Là, j'aimerais expliquer ceci. On pourrait objecter que si l'Ancien Testament et même certaines affirmations isolées des évangiles, par exemple Saint Matthieu chapitre 10 versets 5 et 6, ne peuvent s'expliquer dans le sens d'une application directe à nous-mêmes, dans nos circonstances, alors une contradiction existe évidemment avec le fait que toute l'Écriture sainte nous est donnée. 2 Timothée chapitre 3 versets 15 à 17. Répondons que, bien sûr, toute l'Écriture nous appartient, que toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, du commencement à la fin, est la sainte parole de Dieu. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Mais, que si tout est écrit pour nous, tout n'est pas écrit de nous, ou de nous, ce qui nous concerne. Il serait par exemple essentiellement faux de spiritualiser sans autre les promesses du royaume données par Dieu au peuple de l'Alliance, Israël, et de les transférer tout simplement à l'Église. L'Esprit Saint inspira la rédaction de Romains chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, précisément cela dans le but de dénoncer une telle manière de faire. En ce qui concerne l'Ancien Testament et en ce qui concerne certaines affirmations des évangiles, par exemple Saint Matthieu chapitre 21 verset 45, il faut tenir compte du sens direct et du sens indirect, c'est-à-dire qu'il faut maintenir. Il faut maintenir tout cela, car l'interprétation directe, qui est loin de s'appliquer toujours directement à nous-mêmes, et l'application morale indirecte, qui toujours contient quelque chose pour nous, 2 Timothée chapitre 3 verset 15 à 17, cette distinction est la contrepartie indispensable et le parallèle en relation avec la distinction des périodes de l'histoire du salut et de la révélation graduelle du plan divin de la rédemption. Chers amis, l'Écriture sainte nous montre le plan de rédemption en son entier. Et cela dans une perspective définie, celle de la croix. Si éloignée dans le temps, avant ou après la croix, que soit une période de cette histoire, elle est toujours vue en relation avec elle. Cependant, plus elle en est éloignée dans le temps, plus brièvement, elle se trouve dépeinte et inversement. La conclusion de l'histoire comme son commencement est un point afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 28. Néanmoins, le détail de tout ce que cela implique est encore scellé pour nous. Les choses cachées, elles appartiennent uniquement à l'Éternel. Deutéronome, chapitre 29, verset 29. Nous savons que l'histoire est plus large que semble le dire la Bible lue d'une façon superficielle. Ce que la Bible contient concerne une partie du tout, c'est celle qui est en relation directe avec le chemin de notre salut. Ce dont nous avons besoin pour atteindre le but du salut, les âges qui suivront montreront alors la sagesse et la richesse qui sont sans limite de la grâce et de la bonté de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Éphésiens, chapitre 2, verset 7. Chers amis, vous savez que si on médite sérieusement la parole de Dieu, ce qui est une nécessité importante dont nous devrions tous nous y soustraire, j'aimerais, avant de terminer par la prière, vous communiquer quelques paroles que le Seigneur nous accorde par l'Esprit Saint. Et voici donc ces paroles. Tenez toujours à nouveau à quelques victoires, car il n'y a pas de croissance spirituelle sans victoires successives. Vous convenez qu'on ne saurait se passer de lutte au niveau des choses matérielles, et il y a lutte aussi au niveau du mental et du spirituel. C'est ainsi que, au fur et à mesure que vous progresserez spirituellement, vous verrez que de nouvelles conquêtes solliciteront vos efforts. Fuyez la stagnation. Ne vous laissez jamais abattre en découvrant toujours à nouveau quelques fautes à corriger, quelques obstacles à surmonter. C'est ainsi qu'avec moi, c'est-à-dire avec le Seigneur, vous avancez en vainqueur. Et pour vaincre, défiez donc le péché imprévisible et il reculera. Impuissant, il sera impuissant pour vous laisser passer et pour faire ce que Jésus-Christ attend de vous. La foule ameutée voulait le précipiter du haut des rochers dans le vide. Mais ils s'écartèrent et ils passaient librement au milieu d'eux. Ne soyez pas étonnés de vous heurter à de l'antagonisme quand vous rencontrez le péché, quand vous êtes habité par son Esprit Saint. C'est lui, Jésus-Christ en vous, qui suscite cette opposition. Poursuivez plutôt votre route en toute quiétude et mettez en Jésus-Christ votre confiance. En se réfugiant dans sa force, son disciple ne court aucun risque, mais défions le mal. Il surmonte le mal par le bien. N'oubliez pas, c'est le Christ invaincu et invincible que vous suivez. La foi et le doute ont toujours des incidences physiques. C'est le cas en particulier quand il s'agit de ceux qui prétendent servir le Seigneur. Ils ne sont plus seulement soumis, comme les autres, aux lois du succès ou de l'échec matériel, mais ils sont tributaires avant tout des lois de son royaume. Ainsi, dans bien des cas, vous remarquerez qu'un homme qui ignore complètement le Seigneur se porte bien physiquement, alors que tel de ses disciples est affligé d'une santé souvent déficiente, jusqu'au jour où il comprend que l'Esprit Saint en nous doit dominer complètement sa chair. Dans son cas, en effet, une santé déficiente est un tourment physique, peuvent être dus à un conflit intérieur. Il convient par conséquent de ne pas trop s'occuper du mal physique comme tel, mais de mettre à son esprit et de permettre à son esprit de régner toujours plus complètement et qu'il demeure le maître en toutes choses. Considérez donc tout acte de bienveillance, si modeste soit-il, et tout service fidèle, et toute preuve de délicate attention et d'amour, comme venant uniquement du Seigneur Jésus-Christ. Dans la mesure où vous-même, comme aussi ceux qui avec vous s'entraînent à vivre de lui et pour lui, vous témoignez aux autres une bonté miséricordieuse parce que son esprit inspire vos sentiments et vos actes. Par là même, vous contribuez à établir des contacts féconds dans la sphère sans cesse grandissante de son rayonnement spirituel. Il s'agit là d'un processus infaillible, oui, d'une loi du monde spirituel, dans le cas même où son saint nom ne serait jamais prononcé, les âmes seraient ainsi attirées jusqu'à ce qu'elles le trouvent, oui, lui, qui est à l'origine de tout et qui a tout inspiré. Ce n'est pas sans raison que le Seigneur invitait autrefois ses disciples à devenir pêcheurs d'hommes. Pour ce genre de travail, point n'est besoin d'orateurs éminents, ni de personnalités brillantes. Il s'agit tout simplement de le suivre comme des petits enfants. Partager avec le Seigneur l'inlassable quête pour trouver celui qui se perd, la douleur cuisante qu'inflige une déception, le courage qui pousse jusqu'au sublime, la tendresse d'un pardon sans réserve. Oui, partager avec lui les joies, les peines, l'amour et le mépris. Toujours à nouveau, il longe le lac paisible, s'arrêtant lorsque à l'un et à l'autre, il adresse l'appel d'autrefois en Galilée. Souvenez-vous, quand il a dit « Venez, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Amen. Chers amis, nous allons terminer ensemble par la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, combien souvent nous nous laissons aller à pécher par notre langue, que nous sommes facilement entraînés à porter des jugements faux ou exagérés, à médire de notre prochain, à le juger sévèrement, à voir la paille qui est dans son œil, tandis que nous ne voyons pas la poudre qui est dans la nôtre. Ô Dieu, garde notre bouche, garde l'ouverture de nos lèvres, garde notre langue du mal et nos lèvres de parler avec tromperie. Rappelle-nous qu'un jour viendra où nous aurons à rendre compte de toutes les paroles vaines que nous aurons dites, combien plus des paroles mauvaises et contraires à la charité. Aussi, Seigneur, nous te prions de sanctifier ce don de la parole que tu nous as fait. Apprends-nous à parler, apprends-nous aussi à nous taire, que nous soyons prompts à écouter, lent à parler et lent à nous mettre en colère. Seigneur Jésus, toi, tu parlais comme jamais homme n'a parlé. Que ta parole habite abondamment en nous avec toutes sortes de sagesse. Que nos discours soient assaisonnés de sel avec grâce, afin que tout ce que nous faisons, soit par nos paroles, soit par nos actions, nous le fassions en ton saint nom, en rendant grâce par toi à Dieu notre Père. Sois toujours avec nous pour garder nos cœurs dans ta communion, pour nous préserver du péché. Et si nous y sommes tombés, pour nous pardonner et pour nous relever, que ta grâce et la paix soient avec nous et avec tout ton peuple pour l'amour et pour ton saint nom. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et Dieu voulant, à demain matin à nouveau pour la suite de ces études. Que le Seigneur vous bénisse richement et n'oubliez pas, s'il vous a tendu la main un jour dans votre vie pour vous attirer à lui, ce n'est pas pour simplement nous permettre, je dis nous, parce que je veux m'inclure avec vous dans ce pluriel, simplement penser maintenant, j'y suis arrivé, plus rien ne peut m'arriver, je suis tranquille, je peux donc me laisser aller et la couler douce. Non, 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 non. Il est dit, sauvé pour, est-ce que c'est pour se mettre dans un fauteuil, à écouter simplement une belle musique, ou à jouer avec tous les gadgets d'aujourd'hui à la guerre? Non, absolument pas. Sauvé pour servir. N'oubliez jamais cela. Et n'oubliez jamais une seule âme à qui vous pouvez donner un petit mot, un tract, peut-être même un de ces CD ou une partie du Nouveau Testament, tel que Saint Jean. Pour une seule âme qui sera sauvée, des milliers de péchés vous seront pardonnés et les anges au ciel. Tout le ciel se réjouira pour une seule âme de sauvée qui a été arrachée aux griffes de l'ennemi. N'oublions jamais cela. Donc, nous devons être motivés, nous devons être zélés. C'est ce que j'essaye de faire à 6 heures du matin, à 86 ans, car vous pouvez bien comprendre que je suis au bout du parcours de ma vie. Mais si à 86 ans, je peux encore faire ceci, vous qui avez la moitié moins d'âge, Sie sind ja alle viel jünger als ich. Deswegen können Sie viel mehr machen, als ich machen kann. Bring das Wort Gottes zu anderen, damit sie auch erlöst werden können. Alles Gute Ihnen alle, der Herr segne Sie und ein recht schönen und gesegneten Tag. Tschüss, bis morgen früh wieder.